With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kevin Séraphin, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48 et surtout merci de nous recevoir chez vous parce qu'il faut le préciser quand même, on est chez vous à Barcelone et ça fait très plaisir d'être là. Vous êtes actuellement joueur du FC Barcelone, vous êtes passé par Cholet, les Washington Wizards, Baskonia, les Knicks et les Pacers. Première question très simple, est-ce que vous êtes heureux d'être rentré en Europe ?
Heureux au début. Je pensais pas que j'aurais été aussi bien. Et c'est vrai que Barcelone, bon, ça reste une belle ville. Cette année, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Après, bon, voilà, je me suis blessé, mais en tout cas, dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfait. Maintenant, j'aurais aimé qu'on en fasse plus en play-off, qu'on aille plus loin même en Euroleague, mais c'est comme ça, on a encore une année derrière.
Je ne vais pas décrire tout le cadre, je ne veux pas révéler des secrets, mais il y a des bonnes raisons d'être heureux d'être là. Le cadre est sympa quand même par rapport à, je ne vais pas dire des mauvaises choses sur Washington, parce que je ne connais pas, mais là, vous êtes bien quand même.
Ah non, je suis bien. Après, bon, Washington, ça reste une belle ville. New York, c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'être dans de belles villes. Ouais. Pas vraiment Indiana où c'était moyen. Mais à part ça, dans l'ensemble, j'ai toujours eu la chance d'être dans de belles villes. Donc c'est vrai que Barcelone, c'est quand même très beau.
Barcelone, justement, c'était une destination qui revenait un peu dans les rumeurs depuis 2 ans. Il y avait eu une fois où ça s'était presque fait, mais vous étiez allé aux Pacers, où ça s'était pas fait. Comment ça s'est fait pour de bon l'été dernier ?
C'est le GM de l'année dernière qui avait rendu les choses un peu compliquées. Si on avait essayé, en fait. J'étais prêt à rentrer dès l'année dernière et ça s'est pas fait parce qu'il a compliqué les choses en fait. Donc du coup, et cette année, le GM, il n'y a pas eu trop de questions, il nous a dit tout ce qu'on voulait dès le début et j'ai signé.
Avoir 3 Français sur place, ça a aidé ou pas ? Alors, vous n'étiez peut-être pas tous les 3 déjà là au moment où vous signez, non. Mais avoir quand même.
Non, Thomas, mais c'est sûr que ça a aidé. Thomas et Adrien au début, à la base, ça a beaucoup aidé. T'arrives, on est 3 d'affilée, en plus de ça, on est tous les 3 titulaires. On enchaîne les matchs et c'est parfait.
Thomas Hertel, ça fait longtemps que vous le connaissez, non ?
Depuis que je crois avoir quoi, 17-18.
D'accord, oui, donc c'était une relation vraiment. C'est suivi, vous
j'ai eu l'occasion.
Vous êtes encore en contact
Oui, toujours.
Alors, vous n'avez pas joué en 2018 depuis le début de l'année, quasiment calendaire, à cause d'une blessure au genou. Comment ça va
Ça va mieux. Voilà. J'ai une petite opération au niveau du ménisque. Maintenant, ça va mieux et. Je fais ma rééducation et en tout cas là je travaille. Après, normalement en juillet, août, je suis censé être bien, mais on ne sait jamais comment. Ça dépendra aussi comment je nous réagis. Mais normalement, voilà.
A priori, pour la saison, c'est bon ?
Oui, pour la saison prochaine, je serai là.
Barcelone, donc pour la saison prochaine, est-ce que la NBA, ça reste un petit peu dans un coin de la tête ? Vous avez bientôt 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
Non, c'est sûr. 29 en décembre. C'est sûr que ça reste dans un coin de la tête. C'est autre chose. C'est pas. Et c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi le monde, c'est autre chose. C'est juste une mentalité totalement différente de l'Europe. Et c'est vrai que quand t'as moi qui ai passé pratiquement toute ma carrière pro en NBA, puisque j'ai fait 7 ans en NBA, j'ai fait une année avant à Cholet en pro. Là, une année, donc ça fait 2 ans que je fais 2 ans en Europe et 7 ans aux États-Unis. Donc c'est vrai que j'ai passé pratiquement toute ma vie là-bas. Et c'est vrai que c'est un grand changement. Quand t'arrives au début, c'est tout. Totalement différent.
Qu'est-ce qui change le plus ? Le cadre, le jeu ? Parce que le rythme n'est pas le même non plus.
En Europe, c'est... Le jeu, forcément. Mais surtout, c'est à l'extérieur, en fait. Ici, en Europe, ils ont tendance à... c'est pas que à Barcelone, c'est un peu partout, mais c'est vrai que... On a l'impression d'être j'ai l'impression d'être encore en centre de formation où t'es encadré. T'es professionnel sans l'être en fait, parce que t'es encadré, quand on est en déplacement, t'as un couvre-feu, t'as ci, t'as ça, t'as des règles de partout en fait. Et c'est vrai que c'est totalement différent comparé à la NBA où t'arrives dans la ville et t'arrives à Philadelphie et le coach il dit demain bus à 10h30 et t'es pas obligé de voir quelqu'un, de manger avec Ou si tu vas manger avec tes coéquipiers, c'est vraiment vous qui l'organisez. Et c'est vraiment, il y a tellement de choses, c'est comme ça en fait. Aux États-Unis, ils sont vraiment, la mentalité, c'est vraiment, t'es professionnel, tu te gères. Et à partir du moment qu'à 7h, 7h30, le match, quand le match commence, t'es prêt, c'est tout ce qui nous importe. Mais ici, ils cherchent vraiment à tout gérer, tout encadrer autour, et c'est vrai que c'est différent au début.
Le temps de jeu quand même a été différent, vous avez retrouvé un vrai rôle, ça doit quand même soulager après des années, on en reparlera un petit peu plus de la NBA tout à l'heure, mais après des années où vous étiez un peu ballotté parfois entre du temps de jeu un peu moins, etc. Ouais. Là ça doit être une renaissance quand même, non?
Ah non, c'est sûr, ça fait du bien. Quand t'arrives, et ça avait un peu commencé avec l'équipe de France, après c'est vrai que je me suis blessé aussi, c'est le même problème au genou, mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'arriver. Tu sais, jouer au basket c'est vraiment important, la confiance c'est tout. Le mental, la confiance, c'est très important pour un joueur de basket. Et savoir que tous les soirs, quand tu arrives, tu vas jouer, c'est très important. Tu te prépares. Tu te prépares et tu te mets vraiment dans ton truc et tu arrives. Alors que quand tu arrives et tu sais pas, un soir tu vas jouer, un soir tu vas pas jouer. Il y en a qui vont dire, bon oui, c'est facile, c'est facile. Ouais, mais il faut que tu sois professionnel. Mais tu restes humain, quoi. C'est dur de... Tu sais pas, t'es dans le doute. Surtout, bon, quand t'as un certain âge et que tu commences à devenir un vétéran, tu commences à comprendre les choses et t'essayes de rester professionnel. Mais quand t'es jeune, ça fait 2-3 ans que t'es pro, la plupart ont tendance à se dire, bon, ben, je vais pas me préparer, de toute façon, je vais pas jouer.
Humain et sportif, voilà, parce que vous avez envie de jouer, de marquer des points et faire quelque chose.
Donc, c'est exactement ça. Et c'est souvent aussi l'erreur des jeunes, c'est que t'arrives à ce moment-là où tu te prépares pas forcément comme si tu vas jouer et tu joues. Et là, t'es pas prêt.
Ouais.
Et là, tu passes à côté de ton match alors que c'est une opportunité. Et ça arrive à beaucoup, beaucoup de jeunes. Ça m'est déjà aussi arrivé dans ma vie.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez eu l'impression des fois de vous faire prendre là-dedans, d'être un peu découragé?
Ça t'arrive déjà. Parfois, tu joues pas, surtout ça ressort en NBA. En NBA, c'est incroyable. Si tu as pas joué pendant, 25 matchs et donc du coup, il y a une rotation qui est faite, il y a un mec et d'un coup, Kevin,
faut venir.
Voilà, toi t'arrives et tu vois, des fois, la plupart du temps, après, je me suis jamais retrouvé vraiment dans cette situation, mais c'est vrai que j'ai eu des périodes où je jouais, je jouais pas, je joue, j'enchaîne des bonnes perfs, je joue plus. Voilà, et donc j'essayais tout le temps d'être prêt en fait. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué parce que tu sais jamais et je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation. Il y a plein de jeunes, il y a plein de joueurs qui sont dans cette situation, que je le vois. Et quel que soit le niveau, c'est partout pareil. Mais c'est vrai que maintenant, le fait d'arriver, d'avoir un temps de jeu, d'avoir un rôle et d'avoir un coach qui compte sur toi, qui me parle, il me texte, on me demande mon opinion sur certaines choses et ça fait du bien. Ça fait du bien.
Au mois de novembre, notamment, vous avez marqué un gros panier pendant le Classico en fin de match. Ça fait partie de ces moments où vous sentez vraiment, j'ai bien fait de revenir là et ça y est, prends du plaisir à nouveau.
Tu te sens bien, honnêtement, je me sens bien. Après, encore une fois, je ne vais pas à plaindre. Je pense que quand même, il y a quand même 5 équipes en Europe, je pourrais dire 5 ou 6, qui sont vraiment proches, le plus haut après ces équipes-là, c'est la NBA. Et je fais partie. En tout cas, dans le système, dans l'équipe, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de réputation et tout ce que tu veux, Barcelone, ça reste quand même une équipe qui pourrait, si il parlait au moment d'une extension de la NBA en Europe, ça aurait été une des équipes, c'est sûr.
Il y avait des matchs de pré-saison où d'ailleurs, mes équipes NBA venaient se faire taper par Barcelone il y a quelques années.
Donc, je suis rentré à Barcelone, je ne suis pas non plus allé en Turquie, quelque part. Donc, c'est vrai que. Non, ça fait du bien, ça fait du bien. Et quand tu joues, qu'en plus ces matchs-là, tu te retrouves dans un classico et que tu enchaînes, bon, c'est que ça fait toujours plaisir.
Et vous avez dit notamment à Bibasket que pour vous, revenir en Europe, c'était pas un pas en arrière. Vous avez aussi précisé à Basket USA, c'était au moment de l'Euro, que c'était un choix et pas un manque d'offres NBA. Vous trouvez justement que c'est un a priori qu'il faut un peu combattre, le côté « il est retourné en Europe parce qu'il n'a pas le niveau ».
C'était un choix. Bon, après, les gens, honnêtement, c'est dur. J'ai arrêté de m'occuper de ce que les gens disent. Déjà, parce que 90% ne connaissent pas vraiment ce qu'ils disent, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Il y en a beaucoup, ils parlent, mais au final, ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas dans le monde. Combien sont vraiment déjà allés voir un match NBA? Combien savent vraiment ce qui se passe dans le vestiaire? Combien savent. Il y a des mecs en NBA qui jouent, qui ne jouent pas. Parce qu'ils ont le niveau.
Ouais.
Et après, c'est, ça c'est marrant parce que quand tu vois des situations comme ça et tu vois un mec exploser de n'importe où et tous les mecs sont là, mais comment ça se fait? Mais d'où? Mais non, mais le mec il est fort, mais il se rend pas compte qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de. T'as beaucoup de raisons que ce soit. Et c'est pas forcément à cause du basket, c'est hors basket qui font que quelqu'un ne va pas jouer, surtout en NBA.
Ouais.
L'argent, que ce soit l'argent, l'argent c'est une des grosses raisons. Il y a des mecs qui sont très forts mais qui se retrouvent derrière un mec qui est payé 20 millions. Tu te retrouves à pas. Moi, j'ai joué avec Paul. Paul, c'est une de ces situations. Il a été drafté. Il était derrière Danny Granger. Et quand il s'est blessé, c'est là qu'il a explosé. Mais au début,
ouais, George,
ouais. Au début, il jouait pas. Il jouait pas beaucoup.
Ouais. Ouais,
et, alors que maintenant, c'est quelqu'un. C'est. Mais il y a des jeunes qui savent pas ça. Pour eux, ils voient juste Paul George maintenant. Mais ils voient pas la première année. Il jouait pas autant.
Et c'est vrai, ouais, que c'est dur pour eux, peut-être pour tout le monde, peut-être d'appréhender le fait que même le gars, en effet, qui est le 12e sur le banc. En effet, il a un vrai niveau phénoménal. Ben
c'est ça, en fait. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Et Phil, et quand j'ai joué pour Flip Sanders, il disait tout le temps, il disait, il y a des mauvaises équipes, mais il n'y a pas de mauvais joueurs. Ça reste la NBA. Et c'est vrai que la plupart, en tout cas, des joueurs qui sont... Il y a la plupart de joueurs NBA, on a beaucoup, si tu les mets en Europe dans un bon cadre, ça va être des très très bons joueurs. Et c'est là que les gens ne se rendent pas compte. Et en plus de ça, la NBA, ça reste le plus haut niveau au monde. On peut pas tout le monde peut pas être au sommet.
Ouais.
Il y en a quelques-uns, c'est des élus, c'est des mecs qui sont spéciaux, mais le reste, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et après, donc moi, comme pour revenir à ce que je disais, j'ai arrêté de m'occuper. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ci, ils vont dire ça. Au final, c'est vrai que l'année dernière, c'est pareil. Tout le monde m'a dit ouais, mais il devrait rentrer en Europe, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Au final, ça s'est pas fait avec Barcelone et j'ai retrouvé un contrat de 2 ans avec les Pacers. Et si j'avais pas fait la même chose, ben j'aurais retrouvé un contrat. Et ça, je le sais, juste parce que je suis un big man et je sais déjà que c'est très recherché.
Mmh.
Et je sais que le type de joueur que je suis, je sais que c'est recherché. Maintenant, c'était mon choix. Au bout d'un moment, je voulais plus, je voulais jouer. J'ai eu Barcelone qui me proposait quelque chose d'assez bien, quand même, financièrement assez bien. Pourquoi pas? Et c'est une ville que j'ai toujours aimé. Ben.
Et puis un club comme Barcelone, c'est l'opportunité éventuellement de jouer l'Euroleague.
C'est
quand même une compétition de très haut niveau aussi.
Donc c'est exactement ça. Donc, moi, je me suis dit, bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Après, c'est vrai que j'ai enchaîné. J'ai signé avec... J'étais en équipe de France quand j'ai signé. Et j'ai enchaîné. Ouais. Je suis rentré 3 jours aux États-Unis. J'ai pas eu le temps de... Après 7 ans de vie là-bas, j'ai pas vraiment eu le temps de tout défaire et tout. Donc du coup, cet été, je vais rentrer et essayer de mettre un peu les choses en ordre.
L'ambiance, un petit mot, je parlais de l'Euroleague, l'ambiance entre la différence entre l'Europe et les États-Unis. Là, par contre, peut-être avantage Europe, non? Non, je sais pas.
Pour moi,
voit des ambiances tellement énormes dans certains matchs d'Euroleague que...
Bon, ambiance en termes de fans et...
De supporters, ouais.
Ah!
De salles.
Ah, bah oui, c'est totalement différent.
Voilà.
C'est totalement différent. C'est... L'ambiance, les gens sont... C'est différent. Les Américains, c'est vraiment... Ben, c'est une culture, le sport pour eux. Et après, ils viennent dans un match, ils viennent dans le but de s'amuser.
Mm.
Donc, c'est vrai qu'ils s'amusent beaucoup au match. C'est divertissant. Ils sont tous là. Et... Je sais pas pourquoi l'ambiance... Parce que t'as des salles où c'est... Quand le match est chaud à la fin, c'est chaud.
Oui, oui, oui.
Quand t'es en play-off, c'est une ambiance totalement différente.
Mm.
Et je me rappelle tous mes matchs de play-off, t'as des frissons.
Mmh.
Alors que, et en Europe, après, ça dépend des salles. Hein.
Oui.
Mais quand tu vas à Resta, tu vas en Serbie et que tu vois, il y a SRS partout, il y a police partout parce que ça peut partir en vrille à n'importe quel moment. Et tu te dis, bon, c'est une autre ambiance. Après, même nous, il y a une bonne ambiance. Quand tu as... Après, mais c'est vrai que l'ambiance en Europe, au niveau des fans, c'est beaucoup plus. C'est différent. Mais les Américains, ils peuvent pas non plus trop parce qu'ils ont peur de se faire bannir. Ils peuvent faire.
Ouais.
Alors que ici, mec, il va causer un fight et 3-4 matchs plus tard, il va revenir au match. Ils vont même pas savoir qu'il est là, quoi. C'est comme ça, tu vois.
Alors, qu'est-ce qui est le plus agréable, du coup, quand on joue à Barcelone? Dans la vie, dans le club, qu'est-ce qui vous marque sur cette première?
C'est un club de renommée. Surtout que je faisais partie des joueurs les plus importants de l'équipe, donc c'est vrai qu'à un moment, les gens commenceront à me reconnaître dans la rue. Et c'est un club, Barcelone, c'est quelque chose. Je pense même que ce club est peut-être plus important que sur certains... Le foot est sûrement plus lourd que les politiciens. Et
Ah ouais.
c'est une vérité. Et l'impact que le club il a dans la ville, c'est incroyable. C'est quelque chose, Barcelone, quand
Bah,
même.
il s'était impliqué pendant le référendum sur l'indépendance de la Catalogne,
Je
si je...
crois pas
Non?
qu'ils ont... Ils attendaient justement que Messi dise quelque chose, mais il n'a rien dit.
D'accord. Bon, et alors justement, vous lancez le fameux nom. J'étais obligé de vous le demander. Est-ce qu'il est sympa, Lionel Messi?
Il est sympa. On n'a pas eu... J'ai eu l'occasion de le croiser. On n'a pas trop échangé. Il y avait quelqu'un qui traduisait pour nous. Parce que, du coup, il parle pas anglais.
D'accord.
Et je parle pas espagnol. Donc, la communication, c'était pas forcément... Mais il est... Je suis vraiment... Il est vraiment humble. C'est vraiment une personne... Vraiment, il me parlait. Il posait des questions au mec pour me poser des questions, en fait. Donc, on a parlé. Mais ça n'a pas duré 10-15 minutes. Après ça, je suis parti. Je suis allé m'entraîner.
Alors, mais au-delà d'ailleurs de la question, parce que c'est une question évidemment que je voulais vous poser, mais plus sérieusement, en effet, est-ce qu'il y a des liens entre les différentes, j'allais dire sections, voilà,
Oui.
du club réellement, est-ce que vous croisez les footballeurs à la salle de
Les
muscu
footeux, non. Les
D'accord.
footballeurs, non, parce qu'ils sont dans leur propre encadrement, donc ils ont
D'accord.
tout. Alors que le handball, oui. Dika, tous les mecs de handball, oui. Le foot en salle, tu les croises tous. J'ai croisé, bon, cette année, j'ai vu deux fois Samuel, un petit type.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de Français
Ouais.
aussi dans la section
Je crois qu'on
foot.
est 10, hein. Je crois qu'on est 10 au total au
Bah,
Barça.
donc, il
Ou
doit y avoir
plus, 12.
Lucas Digne, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Je suis pas un grand footeux, mais il y en a au moins trois déjà.
Oui, il y en a 3. Après, nous,
Donc.
on est 3. Dans le handball, je crois qu'il y en a 4.
Ouais.
Il y en a 4.
Oui, ça fait une
Il y a du
sacrée
monde.
colonie.
Ouais.
Oui. Il y a
Ouais.
des liens
Ah non, il y
entre
a
les
du monde.
Français, ouais,
Oui, mais
ou.
oui. Le handball, je suis plus proche d'eux.
D'accord.
Mais le foot, c'est vrai que c'est différent. C'est dur parce qu'ils sont vraiment dans leur truc. Et ils sont pas. T'as pas l'occasion de les croiser, quoi. Parce que bon, on peut pas servir du terrain de foot pour faire du basket.
D'accord.
Donc c'est pas.
Bon, donc c'est pas vous qui avez convaincu Neymar d'aller à Paris. Alors on se
Non,
disait,
pas
il
du
est
tout.
arrivé à ce
Pas du
moment-là,
tout.
Neymar est parti, peut-être qu'il lui avait
Pas
donné
du
les
tout.
tuyaux. Bon, voilà.
D'ailleurs, quand il a signé à Paris, c'était compliqué pour moi de dire quelque chose, parce que je venais de signer à Barcelone et je suis parisien, donc pour moi, c'était compliqué. Donc j'ai rien dit, je pouvais pas trop, c'est un sujet assez sensible, donc j'ai
Vraiment,
rien dit.
ils étaient touchy là-dessus ou...
Non, mais bon, je sais que ça fait pas. Tu sais que les gens ici, ils meurent pour leur équipe, hein,
Ouais.
donc c'est.
Faut pas rigoler avec le
Faut pas
foot, quoi.
rigoler, j'essaye de pas. Voilà.
On va faire un premier petit break sur votre parcours, Kevin, pour une petite question qu'on pose à tous les invités. Dans cette émission, c'est une question très simple. Je vais vous demander le 5 majeur et le 5 majeur de vos coéquipiers. Tout d'abord, si demain vous devez aller jouer comme ça, un dimanche matin, entre potes, vous pouvez emmener 5 mecs qui vous prenez sur le terrain pour les coacher. Et
De
jouer avec eux de temps en temps.
mes coéquipiers à qui j'ai
Avec
joué?
qui vous avez joué dans toute votre carrière. Les mecs qui
Ah ouais,
vous ont le
quand
plus
même.
marqué. Et il y a eu du beau monde.
Ah, il y a du monde.
Il y a eu du beau monde, vous l'avez dit, il y a eu du Paul George, il y a eu du Gilbert Arenas, il y a eu, alors pas très longtemps Gilbert Arenas, John Wall, Bradley Beal, enfin il y a eu beaucoup de monde. Donc je vous laisse choisir dans tout ça qui vous nous mettez sur le terrain pour jouer avec vous.
Il y a tous mes coéquipiers? En 4 pour Porzingis.
Le New Yorkais.
En 3. 3, je prends Nando. Nicolas.
Nando De Colo, ouais.
En 2. Parce que je suis fan et que c'est quelqu'un que. Bah, ça reste l'un de mes meilleurs amis. J'apprécie beaucoup. Rodrigue Bobois.
Bon.
En 1. John Wall. Avec ça, si j'ai un meneur comme John, deux scoreurs, Fallel, j'ai un poste 4 qui est capable de s'écarter aussi, il me faut quelqu'un à l'intérieur pour vraiment. Je pense que je prends Rudy.
Allez, Rudy Gobert, Kristaps Porzingis, Nando De Colo, Rodrigue Bobois, John Wall, bah ça fait un beau 5 quand même. John Wall, vous en gardez un bon souvenir de jouer que vous
Oui,
citez rapidement,
c'est
ouais.
quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, je suis très proche de lui, donc oui. Oui,
Vous êtes
si.
toujours en contact, ouais.
Oui, de temps en temps on s'écrit, cette année on s'écrit de temps en temps, mais après bon, on se parle pas tous les jours, mais c'est vrai que oui.
Et Kristaps Porzingis, vous l'avez cité en premier.
Oui.
Vous avez passé une année avec lui. Apparemment, ça vous a marqué. Je vois que vous avez le sourire quand on
Ouais.
parle de lui.
Bah en fait, moi je l'ai vu arriver au début en fait, et c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un joueur qui m'a marqué, parce qu'en fait, quand John est arrivé en NBA, il était prêt forcément à jouer, bon, c'était un joueur très fort, mais. Il manquait encore de maturité sur certaines parties de son jeu. prenait 15 passages en force par match. C'était, voilà. Maintenant, comparé à ce qu'il est maintenant, c'est incroyable. Mais il a vraiment progressé, alors que Kristaps, quand il est arrivé, il était très mature, en fait. Et ça m'a marqué, en fait. Pour un jeune d'arriver, en fait, surtout, il est arrivé d'Europe et il est arrivé, il était très mature. Et même sur son anglais, à l'extérieur, il est son équipe, sa famille, tout est en place. C'est juste, c'est impressionnant et c'est quelqu'un de mieux. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
On va revenir un petit peu à votre parcours, Kevin. Vous êtes Guyanais. Est-il vrai que vous avez commencé à jouer au basket à l'âge de 15 ans seulement?
Oui.
Et alors, vous étiez plutôt footeux avant.
J'ai fait du foot de 7 à 14.
Et alors, qu'est-ce qui a provoqué le passage au basket?
En fait, j'ai fait du foot parce que mon père, j'ai grandi dans une famille de foot. Ma mère a fait du foot, mon père a fait du foot, mon petit frère. Et en fait, mon père nous a mis dans le foot, en fait. Et c'est vrai que j'ai grandi en faisant du foot. Et je sais pas, à un certain moment, j'avais envie de changer. Et un jour, en fait, je marchais dans le collège et Muriel Morin, qui était à l'époque l'une des... Comment dire, c'était un peu, pas la CTR, mais c'était un peu, voilà, elle faisait partie des gens qui dirigent le pôle, pour l'espoir de Guyane, et elle m'a vu, en fait, elle m'a demandé si je faisais du basket, et je lui ai dit, non, elle m'a demandé si ça me tenterait d'essayer, en fait. Donc je lui ai dit, pourquoi pas, je suis rentré chez moi, je demandais à mes parents, mon père m'a dit, vas-y, essaye, je suis parti à la salle, donc au début, c'était toute une galère pour shooter, j'étais nul, et... Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à vraiment aimer. Mais en quelques mois, j'ai commencé à vraiment aimer le basket. Partout où j'allais, j'avais toujours mon ballon de basket. J'allais à l'épicerie, je marchais avec mon ballon de basket. En plus, c'est du goudron partout, donc j'endommageais bien la balle, mais bon, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, je tombais amoureux. Et après, on a eu la chance de rentrer en contact avec Jean-François Martin, de Cholet. Qui a pas pu me prendre la première année, parce que le centre de formation était plein et que le recrutement était terminé, donc il m'a envoyé à Poitiers, avec Antoine Brault. Et de là, ensuite, je suis resté une année à Poitiers, je suis reparti à Cholet, et c'est là que tout a commencé.
Et vous avez dû avoir une courbe de progression qui, du coup, était quand même assez spectaculaire, parce que si à 15 ans, vous prenez votre premier ballon, et vous dites que vous avez du mal à shooter, et que vous vous retrouvez en centre de formation,
D'accord, j'étais dans mon année de 15, j'avais 14. J'ai fait 15, à 18, j'ai signé mon premier contrat semi-pro. À 19, j'ai signé pro. À 20, j'étais en NBA. Ça m'a pris 5 ans.
Ouais, c'est quand même rarissime. Ouais. 5 ans pour aller en NBA de zéro, c'est quand même exceptionnel.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas, ou même pas. Je me rappelle John, même quand je lui avais dit que je commençais à 15 ans. Parce que je suis un joueur quand même. Je suis un big man avec de bonnes mains. En fait, donc, c'est vrai que. Ils sont choqués, quoi. Ils pensent que je joue, ça fait un moment, alors que. Maintenant, ça fait un moment, mais à l'époque, ça faisait que 5 ans.
Et vous aviez eu, pendant cette période de progression, notamment les premières années, vous aviez l'impression d'être en retard sur les autres ou vous avez très vite rattrapé
et dominé? Au début, oui. Au début, j'étais en retard par rapport à ma génération. J'étais en retard par rapport à Antoine, Edwin, Thomas et tous les 89. J'étais clairement... Quand je me rappelle encore, j'étais en Guyane, c'était en 2007. C'est l'année après où j'ai fait ma première année en espoir et que j'ai vraiment explosé. Et je les regardais cette année, c'était sur Eurosport, ils passaient au championnat du monde, ils jouaient, quoi. Et c'était 88-89. Et j'étais pas là, quoi. Je regardais, je me dis, je serai avec eux, quoi. Au bout d'un moment, j'y serai.
Ouais, donc vous aviez déjà la confiance, quand même.
Ouais. Et l'année d'après, j'ai toujours, ça, c'est un truc pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de confiance. Et j'en ai beaucoup, et parfois, ça peut être pris comme l'arrogance. Mais c'est, moi, j'estime que, quel que soit le sport, si on veut jouer en niveau, c'est un niveau de confiance, c'est obligatoire.
Et puis il y a un truc très américain aussi, on a l'impression qu'un peu tous les joueurs, tous les sportifs US, que ce soit en NFL ou dans d'autres, ont toujours l'impression qu'ils sont le meilleur à leur poste, quoi qu'il arrive de toute façon.
C'est la mentalité. Ouais. C'est la mentalité, et c'est parfois ce qui est triste en France, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'en tant que sportif, c'est obligé. Et c'est vrai que ça choque. Parfois, tu vas avoir un Américain à dire, ouais, mais moi, je suis meilleur que lui. Nanana. Et tout le monde là, oh, mais comment il peut dire ça? Mais il se la raconte, il se prend pour qui? Mais le mec, c'est le niveau de confiance qu'il faut avoir, même si t'es pas meilleur que lui, mais en disant ça, tu vas pas atteindre peut-être pas son niveau, mais au moins tu seras juste en dessous. Après, tu travailles, tu peux, c'est possible. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et c'est vrai que moi, mon niveau de confiance, il est très, très élevé.
Et à quel moment, alors du coup, dans ce parcours express, vous vous dites, je suis prêt pour la NBA?
À quel moment?
À quel moment vous réalisez, ou peut-être que vous ne réalisez pas et que vous dites, j'y vais. Mais
quand je suis arrivé en NBA, je n'étais pas prêt.
D'accord.
Moi, j'estime personnellement, ma première année, je n'étais pas prêt. Ma deuxième année, en revenant de l'équipe de France, en revenant de Victoria, équipe de France Victoria, ça m'a aidé à avancer. D'ailleurs, c'est là que j'ai enchaîné beaucoup de perfs. Mais ma première année, je n'étais pas prêt, je ne parlais pas anglais. Flip Saunders me l'a dit, tant que tu ne parleras pas anglais, tu ne joueras pas. C'est encore une autre raison. La première année, tu vois un jeune qui ne joue pas et tu te dis, ah ben, il est nul, c'est la raison pourquoi. Et ça m'a fait rire parce qu'une fois, il y a une personne qui est venue me voir, elle me dit, ouais, j'ai entendu des rumeurs comme quoi que tu retournes en Europe parce que tu n'es pas assez bon pour jouer en NBA. On me l'a dit en face à face. Et je dis, non, c'est pas vrai, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et c'était une autre raison encore. Mon coach m'a dit clairement, tant que tu ne parles pas anglais, tu ne joueras pas.
Et dans ce cas-là, la franchise vous donnait des cours ou
j'avais une prof d'anglais. Elle venait après les entraînements et je m'assieds dans la pièce des joueurs et je prenais des cours. Et au bout de 6 mois, 7 mois, j'ai commencé à mieux parler, j'ai commencé à avancer, ça avançait très vite.
Et Vittoria, vous disiez, on rappelle, c'est pendant le lockout en fait.
Ah, c'est pendant le lockout.
Donc indirectement, le lockout en fait vous a aidé pour votre carrière NBA.
Ah non, le lockout m'a clairement aidé. Aller à Vittoria, en équipe de France aussi. Bon, en équipe de France, j'aimerais dire que c'est l'équipe de France qui m'a vraiment beaucoup fait progresser, mais cette année-là, j'ai pas beaucoup joué. Il y avait du monde. Il y avait Joachim, il y avait Ali, il y avait beaucoup de monde. Donc, du coup, j'ai joué, mais sur les matchs vraiment importants où j'ai pas joué. Bon, ce qui est normal, j'avais 21 ans.
Vous avez été drafté en 17e position de la draft 2010, directement envoyé chez les Wizards, puisque vous êtes drafté par les Bulls à la base, envoyé chez les Wizards avec Kirk Heinrich. Vous vous rappelez contre qui vous êtes échangé?
Contre rien du tout.
Vous avez été échangé contre Vladimir Veremenko, un joueur biélorusse qui a 33 ans aujourd'hui. Il n'a jamais joué en NBA, il est reparti, il a beaucoup joué en Europe.
Et c'est marrant parce que dans tout, sur ESPN, partout, quand il parle de ce trade, il n'a jamais été mentionné.
C'est les droits de ce joueur-là qui avait été sélectionné au deuxième tour, mais qui n'est jamais venu en NBA.
Tu vois, mais il n'a jamais été sanctionné. Il n'a jamais été mentionné, quoi.
Alors, vous arrivez à Washington dans une équipe qui a été complètement secouée l'année d'avant, puisque Gilbert Arenas, qu'on a évoqué, a amené des flingues dans le vestiaire. Il y a eu toute une histoire, il a été suspendu. Entre-temps, parce qu'ils ne vous ont pas drafté que vous, il y a aussi John Wall qui est le numéro 1 de la draft cette année-là, donc vous arrivez en même temps. Dans ce vestiaire-là, il y a donc Gilbert Arenas, John Wall, Nick Young, André Blatch, JaVale McGee. Sur le papier,
Josh Howard.
Josh Howard aussi, oui. C'est impressionnant.
Il y avait beaucoup de monde.
Ouais. Comment il vit ce vestiaire? Parce que quand on regarde le papier, on se dit, c'est une maison de fou, quoi.
J'arrive dans une atmosphère totalement incroyable. je suis arrivé, j'ai eu la chance d'avoir un Sénégalais, Amadi Ndiaye, qui était avec moi. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a aidé.
D'accord.
C'est lui qui m'a aidé parce qu'il traduisait, parce qu'il était déjà. Et il y avait aussi Trevor Booker qui a été. On était 4 rookies. Et j'arrive. Ah non, mais c'est un vestiaire totalement incroyable. Et c'est vrai que cette année était folle. On se prenait des tôles à chaque match, on perdait de 20, 30 et on enchaînait les défaites. On n'avait pas réussi à gagner à l'extérieur. Je crois qu'on a gagné le dernier match à Utah en fin de saison. C'était totalement incroyable. Le seul, fallait juste plusieurs fois, j'étais prêt à me taper, hein.
À ce point-là.
Ah non, mais t'arrives en fait et la plupart, c'est en anglais, c'est des bullies, quoi. Ils veulent tous te profiter dessus. T'es un petit rookie. En plus, je suis français, je parle pas anglais, donc ils veulent tous. Et c'est vrai que les Kenry, c'est beaucoup comme ça. C'est quand ils arrivent, ils veulent te tester. Ils veulent te. Si jamais tu réagis pas ou tu. C'est terminé. C'est toute l'année. Tu vas taper tous les trucs de rookie. Moi, ça a été clair.
Ouais, parce qu'encore une fois, il y a vraiment des grands noms. Gilbert Arenas, par exemple, il est dans quel état à ce moment-là? Alors, on sait qu'il a eu des blessures au genou, mais c'est un joueur exceptionnel les années d'avant.
Ah non,
il y a eu cette affaire qui l'a secoué.
Gilbert fait partie des joueurs les plus forts que j'ai vus de ma vie. C'est quand je suis arrivé, en termes, là je te parlais de l'extérieur, mais sur le terrain de basket, c'était une équipe remplie de talent. Parce que mine de rien, Nick, c'est impressionnant. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point Nick Young est fort. Et si ben, on va dire qu'il réfléchissait plus et il jouait plus avec sa tête, et ça aurait été quelque chose, c'est incroyable, il est vraiment fort. Et au début, quand je suis arrivé, c'était un combat entre les deux, Gilbert et Nick. C'est beau à voir. J'étais sur le côté en plus. Gilbert, c'est impressionnant. T'as John qui est rapide et qui court partout, et t'as André Blatch qui est très talentueux. T'as Javal qui lui aussi, c'est la même chose que Nick, qui te fait des trucs incroyables. Et c'est des joueurs en fait. Et c'est pas. Ils sont pas. Moi, je suis pas d'accord pour dire qu'ils sont bêtes ou ils sont. Non. C'est juste que. Ils ont pas forcément été encadrés et mis dans de bonnes conditions. Quand par exemple, quand j'ai vu Javal signer au Golden State Warriors, je me dis, mais bon, c'est parfait pour lui en fait. Et d'ailleurs, on le voit bien que. Ça a bien collé. Nick, c'est pareil pour Nick. C'est une bonne chose. Il a été encadré, ils l'ont mis dans son rôle et il n'a pas fait de bêtises. Hein. Pas ce que je sache, il n'a pas fait d'énormes bêtises cette année. Et au final, bon voilà, il se retrouve tous avec une bague.
Mais c'est ça en fait qui donne presque un peu des regrets, c'est qu'on voit Javal McGee a une bague, Nick Young a une bague, Caron Butler aussi, je crois, était dans l'effectif cette année-là.
Non, il était déjà parti.
Bon, en tout cas, il était passé aussi dans cette équipe de Washington ce cycle avec Gilbert Arenas. Donc il y avait quand même un max de talent dans cette équipe.
Il y avait du talent, sauf qu'ils n'arrivaient pas. C'est important pour moi. C'est important. Tu peux avoir le, parce qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux et c'est vrai que. Mais c'est vrai que Javal, pour un big, c'est hors norme. C'est être aussi athlétique. Il est grand, il fait la même taille que Rudy, hein, pratiquement. Il est très athlétique, il est délicat. La façon dont il bouge son corps, quand il court, on dirait un garde. On dirait pas quelqu'un de 2m14, 2m15 qui court. Hein. C'est impressionnant. Et tu vois, t'as Nick qui peut te mettre des shoots dans tous les sens. T'as André qui est un joueur très intelligent. Mais qui est un peu foufou sur le côté. T'as Gilbert, t'as toute cette équipe, mais on n'a pas réussi à mettre l'équipe en place. C'est important de jouer ensemble. C'est important l'environnement. C'est important de comment tu gères et comment tu arrives à emboîter les pièces du puzzle. Tout ça, c'est important en fait. Et si t'as juste des joueurs, le premier qui a la balle a gagné et shoot, ça devient compliqué de jouer au basket. Et c'était un peu ça la première année. Après, ça s'est remis en place.
Après, donc, il y a le départ de Gilbert Arenas au bout de 25 matchs dans cette saison-là. Ouais. Donc là, en gros,
il donne à Orlando.
Et en gros, là, c'est le début du règne de John Wall. C'est plus ou moins, je ne sais pas comment vous le ressentez dans la franchise, mais on a l'impression que là, on lui donne les clés. Ça y est, c'est le numéro 1 de la draft.
Quand il est arrivé, là, c'est vrai qu'il a les clés, mais c'est vrai qu'il y avait encore Gilbert. C'est vrai que lorsque Gilbert il s'en va, là, John, il take over, comme on dit. Donc il a vraiment pris et il a commencé à enchaîner. Et à ce moment-là, c'est encore vrai. John, il a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faut progresser. Mais il a progressé super vite parce qu'il est obsédé par le basket. John, c'est vraiment quelque chose que j'ai rarement vu dans ma vie parce que moi, on habitait tous les deux dans le même immeuble. Il habitait l'étage au-dessus. Et plusieurs fois, je suis allé chez lui et il a 3 télés sur son mur.
D'accord.
Il y avait 3 télés et basket féminin, NBA, basket NCAA, et c'était que ça. Et il fait que ça toute la journée. Il s'assoit dans son fauteuil, il regarde le basket toute la journée.
C'est vrai que c'est pas un des plus. Alors je dis glamour au sens qu'on voit en dehors, qui fait plein de choses, quoi. Il est obsédé par ce qu'il fait.
Ah, il est. Et tu le vois. Mais de toute façon, on peut le voir. Son IQ basket est très élevé à John. Et c'est vrai que les gens. Et c'est, il a obsédé. Il a obsédé par le basket.
Et alors, vous parliez de la dimension physique de Javal McGee. Là, c'est vraiment quelque chose que je vous soumets et vous me dites si c'est correct. Mais pour avoir vu jouer John Wall une fois depuis une tribune de presse, mais je trouvais qu'il dégageait quelque chose de très félin. Il y avait vraiment une impression de puissance et un côté panthère.
John Wall. Okay.
J'avais l'impression que quand il remontait le terrain ou sur une contre-attaque, il y avait un côté très félin, très puissant,
c'est
accroché au parquet, qui était incroyable.
C'est impressionnant. C'est une fois que John est lancé, et en plus c'est quelqu'un dans les airs, il est strong en fait. Il a vraiment une force. Il est vraiment quand il prend contact, je sais plusieurs fois. je saute, tu sautes et il prend contact sur toi, même si je suis un big man et j'ai beau faire 130, ça change rien. Il prend contact et il va au bout, en fait. Et ça, c'est vrai qu'il est... Sur ça, il est très fort, il est impressionnant.
Après votre saison rookie, vous passez à plus de 20 minutes de temps de jeu sur les deux saisons suivantes. C'est votre meilleure période pour vous en NBA ou pas?
Oui. C'est ma meilleure période. J'arrive, je reviens. Flip au début, bon, Flip est toujours là, donc je joue moyen. Flip est viré et c'est vrai qu'à ce moment-là, Randy Whitman m'avait toujours dit, ben, que dès que j'aurai l'opportunité, je te donnerai ta chance. En fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et au début, il y avait Jabal. Ensuite, il y a eu un trade qui a été fait. Ronnie est venu en même temps. Ronnie est venu s'ajouter. Et il a fait un court passage. Ensuite, il y a eu un trade pour Denver.
Oui, c'est vrai.
Et là, à ce moment-là, bah, je me rappelle, on est à Denver. On était où? À Philly ou à Denver? Et j'ai mon premier match. New Orleans, voilà. Et là, j'ai mon premier match. Et là, je joue, enfin. Je fais quelque chose de bien et ça enchaîne. Et après, au bout d'un moment, je commence à enchaîner les perfs et à être bien. Et double-double. Et ça a duré la fin de l'année. Ensuite, une période de 25 matchs. Ensuite, l'année d'après qui a suivi. Et après un moment, je ne sais plus ce qui s'est passé.
Alors voilà, c'est la grande question. Comment ça se fait qu'après, ça retombe, quoi?
Je ne sais pas.
C'est le coach?
C'est toujours pas. Bah, c'est le coach qui a pris sa décision. Je ne sais toujours pas pourquoi. Moi, je n'ai pas changé, j'ai continué à faire ce que je faisais, je travaillais, je faisais tout ce que je faisais. Et ça s'est juste arrêté et au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des matchs. Je faisais des matchs où j'enchaînais, voilà, je fais un bon match. Je ne joue plus pendant 2-3 matchs. On me remet. Je fais encore un autre bon match et je ne joue plus. Et ça me rendait, moi, dans ma tête, ça me rendait fou.
Et alors justement, en 2016, vous avez dit à l'équipe que vous demandiez un transfert tous les ans.
Ouais. À partir de là, j'ai commencé à demander des transferts et à demander trade, et c'était toujours la même réponse que je recevais. Non, mais non, nous, on t'aime pas, on t'aime bien, on veut pas que tu partes. Il y a un moment, j'ai entendu des rumeurs et qu'ils ont dit, il y a une équipe, il y a beaucoup d'équipes qui ont essayé, et ils ont dit, moi, Kevin, je laisse pas partir si j'ai pas un All-Star ou quelque chose. Donc je me dis, ok, ben, dans ce cas, ben, pourquoi je joue pas, quoi. Mais non, et ça a été comme ça jusqu'à ce que je parte.
Ouais, c'est vraiment les messages contradictoires.
Et ça, c'est quelque chose, c'est un truc que j'ai pas compris. Hein. Et moi, cette période-là fera que je serai toujours, pas frustré parce qu'il faut avancer, mais ma vie aurait pu se décider à ce moment-là, en fait. Et c'est là que je sais, si encore je savais pourquoi, et je me dis, bon, c'est comme ça, et t'avances, mais je sais toujours pas. En 2018, je sais toujours pas pourquoi, à cette période, j'ai arrêté de jouer, en fait.
Et derrière, c'est le départ à New York. Vous passez une saison là-bas, 48 matchs, 11 minutes en moyenne. De l'extérieur, on dit toujours que cette franchise est très dysfonctionnelle. Là encore, j'en appelle à vous pour avoir un sentiment de l'intérieur. Comment vous l'avez vécu cette année à New York? On rappelle qu'à l'époque, c'est Phil Jackson qui est aux commandes, Derek Fisher au coaching. Et voilà, et vous vous retrouvez dans cette équipe où souvent à New York, on dit cette année ça va être mieux, et puis finalement ça marche pas, cette année ça va être mieux, et puis finalement ça marche pas. Vous l'avez ressenti comment, vous, de l'intérieur?
Moi, j'arrive déjà, je suis frustré de tout l'été, parce que bon, j'attendais à ce moment-là, on sort des playoffs, on vient de perdre contre Atlanta en 10e tour. J'arrive et je m'attendais à avoir une offre de Wizards, j'ai pas d'offre. Donc, j'ai pas forcément travaillé bien comme je sais. Je suis arrivé en surpoids, pas en forme. Et ça, je l'assume totalement. Cette année-là, comme j'ai toujours dit, les années avant Wizards, j'étais là, j'étais présent, j'étais en forme, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Et c'est vrai que là, ça aurait pu être l'une des opportunités pour moi pour avancer, faire quelque chose, en fait. Et c'est vrai que là, sur ce coup-là, je me suis foiré parce que je suis arrivé, j'ai pas été professionnel sur ce coup-là. Et arrivé à New York, pas prêt. Donc après, je me retrouve en concurrence avec Luan Wilson, Kyle O'Quinn, toute l'année. L'équipe en elle-même était différente. C'est pas impressionnant d'avoir une équipe. C'était, on dirait, un tas de joueurs qu'on a forcé à jouer ensemble. Et c'était compliqué. Et je sais pas si c'est l'effet de New York, je sais pas si c'est... Mais c'est vrai que... Autant j'étais content d'être un Knicks et j'ai adoré mon passage et merci, Je suis content quand même qu'il y avait Kristaps et Kyle et on a pu s'éclater et faire les choses, mais si j'aurais passé une année sans eux, par exemple, mais ça aurait été compliqué.
Ah oui, donc c'était vraiment tendu même dans le vestiaire?
Non, c'est pas que c'est tendu, c'est juste que c'est différent. En fait, moi j'arrive, et c'est peut-être parce qu'en fait j'étais à Washington pendant 5 ans, ou dans une équipe où, quand je suis parti, les deux plus vieux de l'équipe, les deux plus anciens dans la franchise, c'était moi et John en fait. J'ai vu tout le monde arriver, que ce soit le trade de Gortat, le trade des nénés à la dernière minute de la deadline, il arrive en dernier. J'ai passé Trevor Ariza, Paul Pierce, j'ai vu tout le monde. En fait, j'ai vu tout le monde. Et Bradley quand il arrive sa première année, Otto quand il arrive sa première année. Donc j'ai vu tout le monde en fait. Et c'est vrai que j'étais dans un confort en fait. Et j'arrive dans une équipe, c'est la première fois que je sors de mon cocon et j'arrive dans une équipe que je connais pas. Une nouvelle équipe, des nouveaux coéquipiers. Avant, t'as l'habitude de. On arrive à Orlando, je reçois un texte de John, de Garrett Temple, qui jouait. Ok, you wanna go eat something, on va tous manger en groupe, on fait des trucs. Et j'arrive à New York et tout le monde est de son côté en fait. Et je me dis, mais. Je me demande, c'est bizarre, tu vois, donc je sais pas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et après, on arrive, on enchaîne et. Les résultats en collent avec l'image, tu vois, l'image sans être méchant, mais l'image de l'équipe, quand on n'était pas forcément ensemble.
Et un petit truc plus positif quand même, en tout cas je le suppose, jouer au Madison Square Garden 41 fois dans l'année, ça doit être quelque chose.
C'est impressionnant.
Qu'est-ce qui est là, cette salle, qui fait que tout le monde dit qu'elle est particulière?
L'ambiance, après, les stars. Les stars, quand même, on va pas. Quand tu joues, t'as Alicia Keys qui est en face et tu joues. Et je vois des gars, par exemple, comme... c'est quoi son nom? Il jouait dans Martin.
Et c'est Martin Lawrence, non?
Non, Martin Lawrence. Il a un show qui s'appelle Martin.
Ah oui.
Et dedans, il y a... Comment il s'appelle? J'ai vu Brahman passer. J'ai vu différents mecs, en fait, de ce show. Et après, tu vois différentes stars. C'est juste bien, quoi. C'est une autre ambiance, en fait. C'est juste... Et les fans de New York, ils sont vraiment à fond derrière leur équipe, en fait, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que c'est ça, sur ça, New York, c'est différent. Mais il faut... C'est bien comme c'est mauvais, en fait, parce que quand t'enchaînes aussi, tu perds, et que tout le monde commence, les gens, même dans la rue, te critiquent, il n'y a pas de limite.
Ouais, c'est plus dur.
C'est plus dur. Ils vont te dire les choses, en fait. Et surtout, les New Yorkers sont connus pour vraiment être directs et assez cash. Et c'est vrai que c'est différent, mais c'est... Être un X, c'est... Parce qu'en fait, à Washington, on avait des fans, mais on n'a pas vraiment... Il y a beaucoup de sports. Il y a Capital, les Redskins, il y a beaucoup de sports, en fait, et il n'y a pas vraiment de fans. Et surtout que c'est une ville où les gens, ils ne restent pas... Ils viennent, ils restent 3-4 ans, bam, ils s'en vont. Ah, 3-4 ans, bam, ils s'en vont. Et c'est vraiment différent, alors que quand tu arrives au Knicks, là... Tu te dis, mais là, tu as vraiment l'impression, tu te dis, la NBA, c'est welcome to the NBA, c'est vraiment incroyable.
Alors, après les Knicks, direction Indiana, cette fois, vous jouez 49 matchs, dont 3 en tant que titulaire, avec une bonne fin de saison, et finalement, il y avait une option deuxième année pour l'équipe sur votre contrat, il ne l'active pas. Vous êtes surpris?
Très surpris, à ce moment-là.
En plus, vous êtes en équipe de France, hein, on rappelle les conditions.
Très surpris,
parce
que tout l'été, quand on demandait des upgrades, on demandait des updates. C'était non, Kevin il reste, on le garde, il n'y a pas de question à ce niveau. Et au final, ils n'ont pas réactivé l'option. Et ça, à partir de là, bon.
Et pareil, vous n'avez pas d'explication particulière? Ils vous appellent dans ces cas-là, ils font quoi?
On parle avec Bouna, avec mon agent. Maintenant, c'est vrai que, en fait, j'ai cru comprendre qu'ils voulaient, mais il y avait, en fait, par rapport au contrat, aux situations contractuelles, en fait. Il y a Miles, il y a Al Jefferson. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'ils ont cherché à bouger Al. Et ça n'a pas fonctionné. Au final, il fallait que quelqu'un soit coupé. Le plus petit contrat, c'est coupé.
Ouais, avec l'option, quoi. En
plus, voilà, avec l'option, donc c'est facile.
C'était facile pour eux.
Voilà, c'est ce qui s'est passé.
C'est la fin de la première partie de notre interview avec Kevin Serafin. Ne manquez pas la deuxième partie qui sera mise en ligne dans les jours à venir sur Basket USA. On va y parler de Lance Stephenson, LeBron James, l'équipe de France, mais aussi de Fortnite ou de la Guyane. On the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question I would flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs every week. We made 40 G's. Yo, brothers respect mine. I ain't gonna take now. Bam, move from the gate now. Cash flow.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.